Cube Radio. En direct à LCN.
C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisier à Cube Radio. Allô, Philippe-Vincent.
Salut, Audrey.
Écoute, on va parler de campagne électorale, 5 jours qu'il reste. François Legault a changé de ton dans les dernières heures.
Oui, il était dans l'Est du Québec et là, il s'est mis à dire « Ah, mais les oppositions de bonne foi, on va travailler avec eux. Il y a des bonnes idées pour le français, il y a des bonnes idées pour l'environnement. » Là, on s'est dit « Mais voyons, il était où ce François Legault pendant toute cette belle campagne électorale où il a passé à accuser ses adversaires d'être trumpiste, d'être trop à gauche, d'être des radicaux, de pas être là pour la défense du français, de rien comprendre aux priorités du Québec. » C'est vraiment un gros changement de ton à 5 jours de l'élection, alors que depuis le début là, de la campagne, c'est une campagne plutôt terne pour la CAQ, un peu même teigneuse, là où il était beaucoup agressif, un peu hargneux envers ses adversaires. Mmh. Là, finalement, semble un peu vouloir tendre la main, avec quand même un petit bémol. Là. Ce sont les oppositions de bonne foi seulement. Alors, ça sera pas long avant qu'il accuse ses adversaires d'être de mauvaise foi et de gouverner seul. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est un changement de stratégie, notamment parce que là, il était dans l'Est du Québec. Il voit que le Parti québécois commence à monter, à prendre du galon, à peut-être pouvoir garder certaines de ses circonscriptions qui étaient des circonscriptions que Legault espérait gagner. Donc là, il dit, ben, le ton de Paul-Saint-Pierre-Plamondon fonctionne. Pas vraiment le choix de l'adopter, moi aussi. Puis on l'a vu aussi avec ses propos sur la souveraineté. Encore une fois, une main tendue envers ses électeurs souverainistes qui étaient à la CAQ lors de la dernière élection, mais qui, là, regardaient François Legault puis se disaient, voyons, en débat, il dit qu'il est le plus grand défenseur du fédéralisme. Hier, dans Le Devoir, il disait, non, un Québec souverain, ce serait pas nécessairement une bonne affaire. On perdrait 10 milliards, 20 milliards de dollars. Ça vaut pas la peine d'être souverainiste. Finalement, il est revenu pour dire, non, mais ce serait viable la souveraineté pour le Québec, mais en même temps, c'est pas la priorité en ce moment. François Legault a cette grande qualité-là en ce moment dans la campagne électorale d'être capable de jouer sur presque tous les tableaux. Là. C'est un souverainiste, fédéraliste, nationaliste, canadien, québécois, français. À un moment donné, on peut se perdre ou tout le monde peut s'y retrouver. Puis il fait le pari que tout le monde peut s'y retrouver. Puis on le voit dans les sondages, c'est ce que ça donne. Là.
Parlons d'Éric Duhaime aussi, parce qu'hier, il a laissé planer l'idée d'un mur aux frontières pour contrer l'immigration illégale.
Oui, Monsieur Duhaime qui, disons, essaie de tout faire pour pas qu'on le compare à Trump, mais quand il prend la parole, c'est là où on se dit, ouais, ben finalement, la comparaison est peut-être un peu adéquate. Là, Monsieur Trump qui a fait campagne sur la construction d'un mur à la frontière pour bloquer l'immigration illégale. Éric Duhaime qui dit, oui, mais c'est une des solutions. Faut qu'on travaille de façon plus générale à bloquer l'immigration illégale. Mais encore une fois, Monsieur Duhaime prête flanc à cette critique-là, prête flanc au fait que, bon, avec la pandémie, il ressemblait beaucoup au discours de Monsieur Trump. Là, avec l'immigration aussi. À un moment donné, si un mur, c'était la bonne solution, ça fonctionnerait partout. On le voit dans certains pays où il y en a des murs et ça n'aide pas du tout la relation entre les deux pays que ça sépare. Alors, à un moment donné, peut-être que la négociation pourrait être la première étape. La négociation d'une province, ben, c'est pas nécessairement l'idéal quand on a un pays qui ne veut pas négocier cette entente-là avec les États-Unis, comme c'est le cas avec le Canada et les tiers pays sûrs. Là.
Mm-hmm. Et là, on va parler d'un cas qui a vraiment touché tout le monde, là. Un cas qui fait réagir, c'est celui d'Amélie Champagne. Pourquoi on ne parle pas plus de ce problème-là, du fait qu'on a de la difficulté à avoir accès, par exemple, à des soins pour la santé mentale, à des psychiatres notamment?
C'est une excellente question, André. J'aurais aimé ça avoir une réponse, mais je ne l'ai pas. T'sais, en début de cette campagne électorale, il y a eu Forte Jeunesse qui est sorti pour dire, en ce moment, là, les coûts pour la société de ne pas investir en santé mentale, ça représente des milliards. Là, on se dit, ben, c'est des chiffres, on a un comptable, il va peut-être y avoir une réflexion comme premier ministre. Il va peut-être y avoir une réflexion sur l'importance d'agir. Il ne s'est rien passé ou presque. Là, on a un cas clair d'une fille adulte qui s'est faite abandonner et rejetée par le système de santé. Elle était rentrée à l'hôpital et l'hôpital a dit non, il n'y a pas de risque pour elle, malgré des appels à l'aide. Malgré des appels à l'aide de son père. C'est pas des gens qui manquaient de moyens. Donc, c'est pas une question de sous. C'est vraiment une question du système qui l'a abandonnée. La coroner va faire une enquête. Tant mieux, mais c'est pas normal que dans cette campagne électorale, aujourd'hui, là, ça ne soit pas le sujet numéro un. Le fait qu'on abandonne les gens, il n'y a pas de soutien pour la santé mentale, c'est tout aux psychiatres, d'abord et avant tout, et tous les autres autour, les autres travailleurs sociaux, les autres professionnels, ergothérapeutes et autres, ne sont pas là pour aider davantage, pour prendre en charge davantage de patients. C'est un énorme problème. Après ça, il y a celui de la maladie de Lyme aussi. tu dis comment ça se fait que ces gens-là sont obligés d'aller se faire diagnostiquer aux États-Unis, sont pas capables d'avoir des traitements ici. Donc, on a deux gros problèmes de santé. Et on espère, on aime mieux s'ostiner sur bâtir des murs ou est-ce que c'est viable ou pas. Sincèrement, là, faut qu'on pense au monde, faut qu'on pense aux électeurs, puis là, il serait temps qu'on se réveille. Là.
Si jeune, 22 ans.
Ah ouais, non, c'est terrible, c'est terrible cette histoire. J'écoutais le témoignage de son père. Sincèrement, c'est à fendre le cœur. Ouais. Je veux dire, ils ont tout fait pour essayer de l'aider. Le système les a simplement abandonnés. Nos condoléances à cette famille-là. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres au Québec.
On est de tout cœur avec eux, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Vincent.
Salut.